Pour faire un chef-d'œuvre de Maurice Talmer. Quand on est dans la première condition voulue pour faire un chef-d'œuvre, autrement dit, quand on en est capable, dans quel cas est-on le mieux placé pour le faire? Faut-il avoir la grande autorité et la grande foi en soi-même que donne une célébrité exceptionnelle? Un peu d'obscurité, de doute, de modestie, une certaine gaucherie, mais aussi une certaine virginité de talent sont-ils préférables? J'étais hanté de cette préoccupation, parfaitement oiseuse et désintéressée, en lisant l'admirable correspondance de Flaubert. On y voit naître Madame Bovary au milieu de transes, d'inquiétudes, de peurs et de pudeurs si charmantes, et l'auteur engendre son livre dans un si pur oubli de la réclame, si loin de la notoriété, qu'on se demande si tout chef-d'œuvre ne doit pas se procréer ainsi, pudiquement et mystérieusement. Il y a presque toujours près de 95% de déchets dans les œuvres pyramidales des très grands et des très glorieux producteurs, des volumes entiers de leurs œuvres et des plus célèbres, de ceux qui ont le plus profondément agité le monde, vous semblent ensuite, 50 ou 100 ans après, de parfaits et incommensurables bavardages. Pourquoi, vous dites-vous, tout cela a-t-il fait tant de bruit? Qu'a-t-on pu y trouver de si beau, de si fort, de si merveilleux? C'est fort bien relié, religieusement conservé et réédité, ça se vend, ça se réimprime, ça remplit les bibliothèques, et personne, au fond, ne peut plus dire ce qu'il y admire ou ce qu'il y touche. Des mots, des mots, des mots. Tous ces grands hommes n'ont-ils donc été que des mystifications d'éditeurs et mystifie-t-on encore avec eux la postérité? Pas toujours, et vous trouverez, chez certains d'entre eux, les plus belles choses qui aient jamais été écrites, mais perdues dans des déserts de verbiage, dans des continents de simples copies. La gloire leur est arrivée trop tôt, à une dose trop étourdissante. Elle a tourné chez eux en besoin physique. Il en a fallu à ceux-là tous les ans, à d'autres tous les mois, à d'autres tous les jours, et ils ont produit alors ces montagnes de volumes, ces volcans de papier noirci, qui ne sont plus en effet que des volcans éteints. Trop flattés par l'humanité, ils l'ont trop flatté eux-mêmes, ils lui ont rendu son encens en fumée. Plus on y réfléchit, et moins il semble que le vrai chef-d'œuvre, le livre destiné à survivre, puisse être l'ouvrage d'un homme trop accaparé par la gloire. Le vrai chef-d'œuvre, le livre que l'humanité relira toujours, parce qu'elle s'y retrouvera toujours, ce livre-là, d'abord, doit être le livre d'un homme, et d'un homme tout simple, d'un homme comme les autres, sauf, bien entendu, sous le rapport du talent. Or, le premier résultat de la gloire est d'éliminer l'homme de l'auteur. Un écrivain, à une certaine altitude de renommée, n'est positivement plus un homme, ni dans ses affections, ni dans ses haines, ni dans ses sentiments, ni dans ses impressions. Il est comme les rois qui ne voient jamais les vraies figures, ni les vraies attitudes des gens, et ne peuvent même plus se mouvoir naturellement dans la vie. Le monde, d'où lui monte un perpétuel hommage, lui inspire forcément un perpétuel bénissage. Il perd jusqu'au sens personnel de la souffrance, le plus indispensable de tous, pour parler à l'humanité la langue intime qui ne cessera pas de la charmer. Il est tout ce que vous voudrez et tout ce qu'il vous plaira, un génie, un messie, un prophète, un apôtre, un dieu, mais il n'est pas un homme, il ne l'est plus. Et le véritable chef-d'œuvre, le livre qu'on relira toujours, ne sortira plus jamais ni de son cœur ni de son cerveau. Il n'existe pas, d'autre part, à proprement parler, d'esthétique générale, et chaque sujet différent comporte une esthétique particulière. Qu'on sente, dans les œuvres les plus diverses, la même main et le même cerveau chez le même auteur, je ne vois pas trop comment il pourrait en être autrement, mais que l'auteur conçoive et écrive tous ses romans ou toutes ses études selon une manière uniforme, je vois là, je l'avoue, malgré tout ce qu'on pourra dire, le plus grave de tous les défauts. Madame Bovary n'est pas fait comme Salammbô. Salammbô n'est pas fait comme la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier n'est pas fait comme Bouvard et Pécuchet. Pour chacune de ses œuvres, Flaubert a commencé par chercher une formule spéciale. Et jamais la formule de l'une n'a servi pour une autre. Simple bon sens artistique, en somme, oui, mais bon sens que n'a pas et ne peut pas avoir l'auteur trop pris par la gloire. Et celui-là, en effet, ne s'appartient plus. Il n'y a plus pour lui de coin solitaire où il puisse composer et réfléchir en paix, où il ait le temps et le recueillement nécessaires pour trouver l'art spécial et nouveau de l'œuvre nouvelle. Il faut qu'il se hâte, qu'il se précipite, qu'il satisfasse toute cette foule d'où lui viennent tant de satisfactions. Et il ne peut s'en tirer qu'en se recommençant constamment, par un procédé, par un moule dans lequel sont jetés tous ses livres et toutes ses phrases. Et il procède, et le moule fonctionne. Il parle dans la même langue des salons et des chiffonniers, de la campagne et du macadam, des montagnes et des papillons. Tout cela fait du papier, mais ne fait pas le livre qui vivra. Ce livre d'ailleurs, le grand homme n'est pas le seul à qui certaines dispositions d'esprit interdisent de l'écrire, et l'ambitieux de l'être ne nous le laissera pas non plus. Lui, ce qui l'en empêche, ce n'est pas le bruit qu'il fait, mais le bruit qu'il voudrait faire. En écrivant, au fond, il n'a pas pour but d'écrire, mais de prendre une place. Et on ne peut pas être dans de meilleures conditions pour produire quelque chose de mauvais. Que faut-il pour un chef-d'œuvre, si vous avez le génie ou la patience qui passe pour y mener? Une passion exclusive, aveugle, hallucinante, de la vérité, la passion intense et pure de l'œuvre elle-même pour elle-même. Et la nécessité de cette passion-là est tellement impérieuse que tout ce qui n'est pas elle et purement elle y fait obstacle. Vous avez beaucoup lu, et vos lectures vous ont rempli l'esprit de visions et de phrases étrangères à vos sensations personnelles. Obstacle, et puissant obstacle. Vous avez certaines manies littéraires, comme d'aimer les faits pour les faits, ou les phrases longues, ou les phrases courtes, ou les virtuosités de style, ou les mots archaïques, ou les mots sonores, ou les mots gris, ou la mise en scène. Autant d'obstacles. Que sera-ce donc si, à tous ces obstacles, qu'on pourrait appeler nobles, viennent encore s'en joindre d'autres qui ne le sont pas? Vous cherchez une place. Alors vous allez commencer par vous rendre compte de celles qui sont déjà prises. Et il s'agit de bien manœuvrer, d'être adroit, de flairer le vent, de tâter le public, de voir ce qu'il veut, d'apporter sur le marché des articles comme on n'en vend pas à côté. Le genre brutal et le genre sévère sont déjà tenus? Il faudra n'être ni brutal ni sévère. Mais on serait justement porté par sa nature à être brutal et sévère. Ça ne fait rien, on sera doux. Il n'y a plus qu'une place à prendre et c'est justement une place douce. L'ambitieux de l'être, dans cette course à la place, ne pourra vraiment guère produire que de vagues et attristantes pacotis. Plaire au public, ne pas déplaire aux confrères, orienter son genre d'après l'orientation de celui-ci ou de celui-là, être un peu grivois parce qu'on aime la grivoiserie, un peu sentimental parce qu'on ne déteste pas le sentiment, offrir de la nouveauté selon le goût du jour. Que peut bien devenir, dans cette esthétique-là, la malheureuse vérité? Mais savons-nous, et saura-t-on jamais, comment se font les chefs-d'œuvre? N'est-ce pas le mystère le plus obscur, le plus profond, où l'on puisse essayer de voir? Et l'histoire de Madame Bovary, bien connue, mais dont on peut toujours parler, me semble cependant bien belle et bien instructive. Flaubert tremblait d'anxiété en relisant chaque mot, après s'être enflammé le sang jusqu'à en tomber malade en les cherchant. Il travaillait avec fureur à des chapitres dont il ne laissait plus ensuite une phrase debout. Il suait et haletait des nuits entières, et jamais encore, à cette époque, il n'avait publié une ligne. Il était plus inconnu que le dernier des reporters ou des écotiers d'aujourd'hui, et ce livre même qu'il enfantait dans ses affres, il ne le voulait même pas imprimer, il l'avait rêvé secret, écrit seulement pour un ami, et lui, caché entre eux comme un crime, et éternellement inédit. Ainsi s'achève, pour faire un chef-d'œuvre, une causerie de Maurice Thalmayer.